Ça, on le déclasse.
Ouais, c'est sa combinaison.
Original, soyez bienvenus avec le retour de Leïla.
Bonjour à tous.
Tellement heureux. Daniel Morin est là.
Tom
aussi. Jérémy Crédville.
Bonjour.
Tout à l'heure, Tanguy Pastureau. Bonjour. Et notre invité pour la première fois dans la bande originale, Jean-François Balbert.
Bravo.
Ravi de vous accueillir, Jean-François. Soyez le bienvenu.
Je suis très heureux d'être là. Je vous remercie infiniment.
C'est vrai que c'est la première fois. Ça fait 5 ans que cette émission existe. Vous ne m'aimez pas ou...
Bah, on peut quand même constater que j'envahis pas les médias.
C'est vrai.
Il y a 45 ans que
Oh si, il y a Cyril Hanouna, il y a vous Jean-François, ouais. On peut le dire.
C'est vrai, ça fait partie de vos qualités, en effet. Autre qualité, celle de porter avec Didier Bénureau la pièce de la rentrée. J'ai pas peur de le dire, parce que quand il y a deux comédiens comme ça qui interprètent à la Pépinière Théâtre une pièce comme ça, moi j'ai qu'une envie, c'est de courir la voir. Le CV de Dieu, nous l'avons lu. Elle est mise en scène par votre épouse, Françoise Petit. C'est une pièce de Jean-Louis Fournier. On va en parler en quelques instants. À lire déjà, c'est génial. Vous l'avez déjà joué au festival Off d'Avignon. Mais avant cela,
quoi ?
J'aimerais savoir si mes camarades vous connaissent un peu. Parce que moi, la moindre des politesses, c'est de savoir si on vous connaît bien.
J'adore cette
attention. Nous comptons,
j'aime bien.
Nous comptons les points. Toi, t'as une semaine d'absence. Ah, hein, ouais, t'as du retard. Vous ne dites rien, Jean-François, vous ne ferez que constater...
Ça, on peut me faire confiance.
Avec qui confondait-on souvent Jean-François Balmer ?
Corbier.
Non.
Corbier ?
Quoi ? Je tente ?
Non, non.
Avec son épouse ?
Non. Bah non.
Avec un autre comédien, forcément. Ah ouais.
Non.
Un musicien ? Un chanteur ?
Non, une...
Un politique ?
Une vedette de la télé.
Ah. Vedette de la télé. Ouais.
Michel Drucker.
Non. C'est vrai qu'il y a une ressemblance frappante.
Sophie Costa-Liagas. Sophie Davant.
Non, non plus.
Avec une...
Une vedette de la télé.
Une vedette de la télé.
Que je regarde Jean-François.
Un présentateur donc
non.
Un chanteur
non.
Ça peut être quoi une vedette de la télé
Pascal Sevran
non.
Quelqu'un de la météo
non.
Oh là là,
un journaliste
un prêtre
je dis souvent, est-ce que c'est vraiment le cas Jean-François
quelquefois.
Souvent, quand même. Quelquefois.
Ça me mettait en sidération quand même. Aussi.
Pourquoi on vous prenait pour qui
alors justement maintenant.
Ah non, un indice.
Je vous en prie.
Un indice.
Garcimore.
Non.
Ah non,
chez toi que tac tac les petites souris.
Ah, exactement. Oui. Mais c'est pas ta génération, ça, comment tu connais ça.
Bah oui, bah excuse-moi d'avoir une culture.
Il a 57 ans.
Ça a pas marché.
Ils se mettent tous les deux.
Chez Magic.
C'est vrai. Et comment réagit-on dans ces cas-là, c'est-à-dire quelqu'un dans la rue.
Ah on cogne. Franck Garcimore, tu cognes.
On dit quel plaisir.
Non mais si on vous tend un papier en disant Monsieur Garcimore, signez-moi un autographe s'il vous plaît.
Vous signez.
Je signe évidemment.
Vous signez Garcimore.
Jean-François Garcimore, c'est le frère. Voilà.
D'accord. Quelle personnalité Jean-François Balmer a-t-il hébergé chez lui en Suisse ?
Garcimore.
Non.
Non, mais personnalité.
Personnalité dont on parle beaucoup en ce moment.
Polanski.
Nicolas Hulot.
Alors, on n'est pas loin.
Daniel Cohn-Bendit.
Exactement.
Oh,
je voudrais ajouter que je l'ai écouté ce matin.
Oui.
Je trouve que c'est quand même un des plus brillants éléments qu'on a dans le monde politique. Et en tout cas, il a tout mon soutien. Parce que c'est très important, tout d'un coup, de penser à l'Europe plutôt que simplement d'organiser un plébiscite ou un référendum anti-Macron. Les élections en Europe sont des choses extrêmement importantes et c'est quand même bien rassurant quand même que ce soit un type qui connaisse l'Europe, qui soit complètement engagé. Et puis je regrette qu'il soit pas ministre parce que
c'est ce que j'allais dire. Si vous aimez sa parole, pourquoi
Oui, parce que moi j'en aurais fait le porte-parole de parce que c'est je pense que c'est une des seules personnes qui aurait pu faire comprendre au monde médiatique qu'il y a un temps médiatique. Il y a un temps historique, il y a un temps de travail. Le blé qui lève, on ne sait pas exactement ce que c'est. Voilà.
Et alors, vous l'avez hébergé, vous l'avez abrité, parce qu'il était interdit de séjour en France.
Oui, mais je l'ai jamais croisé après, depuis.
Mais alors, comment on fait pour héberger quelqu'un qui est en fuite,
que j'étais,
et après on ne peut plus jamais le revoir?
Parce que simplement c'était j'étais avec des étudiants gauchistes et personne n'avait le courage de l'abriter et puis j'ai dit venez chez moi et puis j'ai laissé mon petit appartement et puis
Et vous n'êtes plus jamais revu depuis ?
Non, non.
D'accord.
Il a rendu les clés quand même, non ?
Comment Jean-François Bellemare a-t-il su très vite adopter la démarche de Louis XVI dans le film La Révolution française ?
En boitant, en tombant.
Il avait un corset.
Il avait une démarche qui...
Claudiquait, ouais.
Ouais, exactement.
Il y avait des talons sur un seul pied.
Non, mais ça a un rapport en tout cas avec des accessoires, oui.
Semelle ?
Il s'est mis une genouillère.
Non.
Il y a une chaussure de pied beau.
Ça a été involontaire, en fait.
Il a une chaussure taille trop petite.
Ah non, il a mis ses chaussures à l'envers.
Non.
Genre la gauche à la place de la droite, ouais.
Non.
Bon, on avait compris, c'est bon.
Il y avait une chaussette au fond de sa chaussure.
Alors, c'est un rapport avec, non pas la chaussette, mais quelque chose autour de la jambe.
Il avait une attelle.
Il avait une jarretière.
Un plâtre.
Non, ça peut avoir un rapport aussi.
Un garrot, un truc, qu'est-ce qu'on fait ?
Un bas de contention.
Alors, c'est un problème avec un bas, oui.
Un bas résille.
Non.
Non, ça c'est toi, pardon.
Le bas, il le serrait trop.
C'est l'inverse.
C'est un bas trop... Il le lâchait trop grand.
Exactement.
Ah, un bas trop grand,
exactement.
Oui,
d'accord. Jérémy Crédville, bien battu, sur ce coup-là.
Du coup, il faut le rattraper sans les mains, c'est ça qui fait la démarche.
Non, c'est
le remonter.
Félicitations, mais c'est parce qu'il fallait mettre une demi-heure ou une heure pour s'habiller, et tout d'un coup, j'ai constaté que le bas avait pété. Et j'ai fait 2-3 pas vers la costumière et je me suis dit putain eureka, je vais la fermer, je vais la fermer. Et c'est comme ça que
il y a des gens qui ont dit c'est génial cette démarche.
J'ai tout inventé.
Non mais il fallait avoir l'idée de ne rien changer.
Et moi j'ai dit et c'est parce que j'avais étudié à fond. Je savais qui
l'avait côtoyé en classe.
Allez, dernière question avant de parler de la pièce. Si que fait au minimum dans son métier Jean-François Bellemare?
La douche?
Non.
Je sais pas.
Apprendre le texte.
Ouais, il apprend le texte du partenaire.
Le texte des autres.
Non.
Le texte d'une pièce dans laquelle il ne joue pas.
Il respecte.
Non, il fait. Non. Il le fait un minimum.
Un rappel.
C'est pas au minimum. Non, c'est pas un minimum.
La promotion.
Exactement. Bien joué.
Ça, c'est le premier point que je marque de cette saison.
Vous n'aimez pas trop, d'ailleurs vous nous l'avez fait comprendre en disant que vous alliez parler un minimum dans cette émission. Vous trouvez que les acteurs se fourvoient à trop être présents dans les médias ou à trop parler ?
Oui, moi je pense que c'est absolument l'inverse du métier que j'ai ambitionné de faire. Pour moi, un acteur, il doit essayer d'étonner, de surprendre dans son interprétation. Or, aujourd'hui, de nos jours, je pense que le métier s'est complètement dilué et les interprétations se font uniquement dans les médias. Je trouve que c'est extrêmement restrictif.
On est d'accord, Jean-François, mais il y a plusieurs choses. Il y a celle de promouvoir soit le film, soit la pièce, et d'en parler, ce que nous allons faire aujourd'hui. Oui, vous doutez bien que le CV de Dieu, il faut donner envie aux gens d'y aller.
C'est vrai. Et c'est l'intérêt. Surtout à une époque où c'est quand même plutôt difficile de parler de Dieu, et on peut quand même saluer Jean-Louis Fournier d'avoir pris un angle d'attaque assez original, voire singulier. C'est drôle de faire bizarrement. On peut considérer que ça n'a jamais été fait.
Ah mais je pense sincèrement que c'est la pièce la plus déjantée, la plus drôle, la plus dingue et la plus intelligente de cette rentrée parce qu'elle est à la fois il y a du fond, on peut vraiment lire entre les lignes beaucoup de messages et beaucoup de valeurs, mais la manière dont elle est faite, la manière dont elle est écrite est fait avec beaucoup de malice. J'ai hâte de voir comment Didier Benureau et vous allez faire cette joute verbale entre un DRH donc et Dieu cherchant du travail, c'est ça le point de départ.
Il s'ennuie
et j'ai l'impression que...
Et pourtant, il a des occupations.
Oui, et puis il croit même plus en lui.
C'est ça. Ça commence par « Le ciel était fini, la terre était finie, les animaux étaient finis, l'homme était fini, Dieu se dit qu'il était fini, lui aussi. Il sombra dans une profonde mélancolie, il ne savait qu'à quoi se mettre, il fit un peu de poterie... pétri une boule de terre, mais le cœur n'y était plus, il n'avait plus confiance en lui, il avait perdu la foi, Dieu ne croyait plus en Dieu. Il lui fallait l'urgence de l'activité, des nouveaux projets. Il décidait alors de chercher un travail. Et comme tout en chacun, il rédigea son curriculum vitae et fit une lettre de motivation. Le CV était imposant. La lettre bien tournée, sa candidature fut immédiatement retenue. Dieu fut convoqué sur Terre au siège d'un grand groupe pour une semaine de tests et d'entretiens divers, etc.
Le meilleur pitch, voilà.
Alors oui, là au moins, on sait le point de départ. Voilà. Après,
non, mais quand je voudrais quand même saluer, vous saluer quand même, parce qu'on est le 3 septembre, on va jouer le 13 septembre. C'est qu'au moins, on sait que vous n'avez pas vu la pièce.
On l'a lu.
Et je pense que vous l'avez lu. Et je pense que moi, j'accueillerai avec le plus grand intérêt, le plus grand plaisir vos critiques, parce que ça correspond exactement à ce que je pense du temps médiatique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est normal de faire une critique et parler de spectacles qu'on n'a pas vu.
Ah non, c'est pas normal. Non, je suis pas d'accord.
Je trouve que c'est rassurant.
Je vous interdis, Jean-François Balmer.
C'est bizarre de venir faire de la promo une émission. C'est le temps médiatique, c'est un petit peu délicat.
Non, je vous interdis.
C'est ce qu'on fait à chaque fois, parce qu'il n'y en voit jamais rien.
J'écoute, moi je suis un grand écoutateur de France Inter, de France Info.
Il n'y a pas un film, il n'y a pas une pièce de théâtre, il n'y a pas un livre dont nous parlions dans cette émission. Donc je vais juste au bout de ma phrase, que nous n'ayons vu si elle est sur scène, et si en l'occurrence elle n'est pas sur scène, et l'anticipation de la promotion de dire cette pièce présente un intérêt, allez la voir, c'est le minimum de politesse, et de la lire. Et c'est dans le blanc des yeux.
C'est la raison pour laquelle je suis venu ici.
Et c'est dans le blanc des yeux que je vous regarde.
Parce que je viens souvent, et j'écoute souvent votre émission, et je sais que justement, vous discutez de ce que vous avez vu et connu.
Alors là, justement, dans le blanc des yeux, je vous regarde, dans le genre de plaisanterie qu'il peut y avoir, par exemple, lorsque le DRH demande à Dieu pourquoi il a inventé et comment il a inventé l'eau fraîche, Dieu lui répond tout simplement « J'avais soif.
Ouais.
J'ai inventé l'eau fraîche. » Et juste derrière, il dit « J'ai pas inventé l'eau tiède. » Voilà, le genre de vanne qu'il y a dans le...
Vous prouver qu'on a lu le texte, si vous voulez.
Je crois qu'il rajoute un truc du genre « si c'est ça que vous voulez dire, j'ai pas inventé l'eau tiède. » C'est-à-dire que il y a des pics, des saillies entre les deux. D'ailleurs, on ne sait même pas trop pour quel poste postule Dieu. On sait qu'il est devant un DRH et on ne sait pas trop quel boulot il cherche.
C'est tout à fait vrai.
En tout cas, il essaie de sonder ses qualités.
Ce qui est sympathique, c'est qu'à la fin, il n'est pas pris quand même.
Enfin, ah bah non, mais alors non, ne gâchez
alors,
pas tout.
On voulait révéler des trois trucs sur la pièce, enfin, nous, c'était pas notre objectif.
En fait, le DRH fait une évaluation des compétences de Dieu. Voilà, est-ce qu'il est plutôt organisé?
Et ça tourne même en interrogatoire policier. Parce que au début, il vient se présenter en ne donnant que les bonnes choses. La terre est ronde, je savais pas trop quoi faire, donc j'ai pris justement une boule de terre comme ça, je l'ai faite ronde. Au début, je pensais la faire carrée, mais je me disais que ceux qui allaient habiter sur les angles risquaient de tomber, donc j'ai fait un peu ronde. C'est tellement drôle et absurde, mais cette absurdité fait du bien, notamment. Je repense, il y a beaucoup de peintures et beaucoup d'allusions faites à la peinture dans la pièce.
Aux artistes qui sont aidés et inspirés par Dieu.
Ouais, voilà. Parce que le DRH d'ailleurs lui-même s'essaye à quelques talents de peinture. Vous parliez par exemple de la promotion. Dieu se plaint en disant, écoutez, je me suis embêté à faire ces petits points lumineux dans le ciel toutes les nuits, et tout ce qui vous intéresse, c'est de regarder la télé ou de passer vos nuits sur les ordinateurs. Je me suis emmerdé pour rien à faire de sublimes nuits étoilées que vous ne regardez pas. C'est là où c'est extrêmement drôle, parce que ça nous renvoie aussi à notre propre vie en disant, on passe à côté souvent de l'essentiel.
Amen.
Si vous ne dites pas un mot de...
Je suis tout à fait d'accord. Je peux que être absolument d'accord avec ce que vous venez de dire.
La notion de peinture est très présente, d'ailleurs.
Elle est très présente parce que Jean-Louis Fournier,
ami de Desproges, dans cette maison,
c'est lui qui avait mis en scène la minute de Monsieur Cyclopède. J'avais fait avec lui l'arithmétique impertinente. Il avait fait la grammaire impertinente. J'avais joué aussi l'abbé Saunière. L'abbé Saunière qui est un abbé de Rennes le château. Et je voulais dire simplement que Jean-Louis Fournier est un spécialiste de la peinture. Je crois qu'il a eu un set d'or sur une émission de peinture, etc. Il a fait que ça pendant des années et des années.
Donc les allusions sur les couchers de soleil, la peinture à l'huile, les différents tons de rouge et de couleurs.
Ça, c'est des choses complètement qui maîtrise et qui connaît, c'est une de ses passions.
Alors le seul tout petit reproche que je pourrais faire c'est que justement il me semblait qu'il y avait dans le livre une partie consacrée aux divers appellations noms de
on l'a rétabli.
D'accord.
On l'a rétabli parce qu'il
n'était pas dans le texte et ça me manquait.
Vous avez raison. Vous avez absolument raison. Il explique.
On ne sait pas de quoi on parle.
Non, à un moment donné, il dit. Bouddha, il y avait. Jupiter, Zeus, Shiva et.
Shiva et. Joyce a été éliminé du classement, tandis que l'autre a pris 72 places.
C'est ça.
Et c'était très important.
Et il dit non, mais ce sont que des pseudonymes. Je me cache derrière tout cela.
Exactement.
Et ça, c'est important parce que dans l'état actuel de notre monde. Il fallait passer par là.
Absolument.
Et je n'avais pas compris pourquoi cette coupe avait lieu si elle n'a pas lieu. Voilà, ça vaut la peine donc.
Non, mais c'est très important parce que c'était une grosse discussion puis on l'a rétabli enfin à Avignon. Et vous avez donc un texte qui n'avait pas été. Mais c'est à partir du 13 septembre, on le dit évidemment. C'est une très bonne remarque.
Et est-ce que la répartition des rôles entre vous et Didier Bénureau a été évidente?
Oui, parce que c'est Jean-Louis Fournier qui avait décidé, après avoir que je fus curé, il m'a dit maintenant, à ton âge, tu mérites d'être Dieu.
C'est une promotion, en fait.
Ça va être difficile d'aller au-delà. Hein.
Oui, mais
si, tu peux faire Macron, mais c'est bon.
Et donc, si vous voulez, il souhaitait que Didier Bénureau, qui est, entre parenthèses, un acteur exceptionnel, et c'est bien, moi je le connaissais, je l'avais pas vu sur scène.
C'est la première fois que vous partagez un...
Absolument.
D'accord.
Et si vous voulez, j'avais vu c'est
seul en scène.
Morales.
Morales, c'est magnifique.
Moi j'ai des voisins dans mon immeuble qui on m'a dit vous allez jouer avec Bénureau. Morales.
Évidemment.
Morales.
C'est comme une marque.
C'est très important. Et puis c'est un personnage qui a une passion pour le travail et surtout qui est d'une précision exceptionnelle.
Puis là, ça lui va bien, le DRH est à la fois flatteur et inquisiteur. Parce que parfois,
il a un côté facho.
Hein. Je suis pas.
Parce que Dieu s'en prend quand même plein la tête. C'est ça qu'il faut dire, c'est qu'on fait remarquer les magnifiques créations de Dieu, l'Himalaya, les Vosges, même si on les trouve un peu plates, la Beauce, oui, qui ne sert à rien.
Le blé.
Je sais bien, mais enfin le DRH.
Tu sais que pour Nagui, le blé, c'est très important.
C'est vrai. Non, mais je tiens à préciser que je cite le texte. Et en revanche, tout d'un coup, Dieu se voit reprocher les catastrophes naturelles, les morts violentes. Et là, j'imagine bien Didier Bénureau prendre du plaisir à vous dresser ce bilan catastrophique.
Ah oui, tout à fait. Il est pas d'une méchanceté. Il compose une méchanceté terrifiante. Non, c'est un vrai plaisir.
Alors, comment aborder le rôle de Dieu, justement?
Vaste programme.
Bah oui, parce qu'il est à la fois bon, puisque bon Dieu est même employé, et quelques vannes sont faites autour de cette expression de bon Dieu, et puis en même temps, il fait rien pour sauver certaines vies, il se prend la tête avec le pape, il envoie des virus parce que justement, il y a une surpopulation sur cette planète, il y a peut-être une bonne solution pour éradiquer tout ça et le comportement des hommes. Donc, vous passez par tous les états, c'est peut-être ça qui est jouissif dans ce rôle.
Oui, c'est-à-dire que ça demande beaucoup de modestie que j'ai pas forcément.
Il aime pas beaucoup son fils.
Il aime peu son fils.
C'est vrai que c'est un peu un idiot quand même.
C'est quand même extrêmement drôle quand il dit. C'est un mot qui vient souvent dans la famille. Alors, vous l'appelez comment? bon Jésus, et l'autre en disant bon à rien, ça lui va beaucoup mieux.
Donc ce rôle, vous l'abordez comment? Est-ce que c'est avec l'auteur que vous en avez parlé? Est-ce que c'est avec Françoise Petit qui met en scène qu'il fallait trouver, sans trouver la démarche de Louis XVI, il fallait lui trouver un...
C'est-à-dire que je pense qu'elle a trouvé un costume qui l'habille peut-être pour l'hiver. Et puis il faut prendre un peu de distance, de recul. Et il faut être modeste en Dieu. Mais je trouve qu'il est plutôt sympathique.
Mais il faut lui donner une voix divine. Il faut lui donner un rythme dans son débit. Il faut lui donner.
C'est pas toujours du ping-pong. C'est vrai que il y a beaucoup de. Il y a des cols. Il y a des montées. Il y a des descentes. Et puis c'est le rythme est complètement difficile à trouver dans une pièce à deux qui est entendante. Être un peu du ping-pong.
Et qui aide à l'humour aussi, qui aide au rire, parce que s'il y a trop de temps d'une réplique à l'autre, on perd le sens et
Je sais, moi qui ai des origines suisses, la Suisse, je perds un peu.
Non, justement, au contraire, le réglage, l'horlogerie est un savoir-faire suisse.
Vous avez pensé à qui, pour Dieu? Est-ce qu'on essaie de figurer
à
voir? Merci.
Comédien?
On est fixé.
dans la mise en scène, justement, à la Pépinière, est-ce qu'il y a une accessoirisation particulière, une lumière, il y a deux décor, chaises à un moment donné, ouais. Des face à face, comment
Oui, il y a un bureau, il y a un bureau du DRH qui ressemble un peu à votre nouveau studio.
On n'est pas loin du DRH ici, oui.
Et puis
une soucoupe volante.
Sinon, il y a quelques toiles de maîtres qui sont projectionnées.
On prend du plaisir à lire le texte, donc j'imagine qu'à vous, à le jouer, il doit y avoir aussi...
Tout à fait, formidable.
Une certaine malice qui va d'ailleurs bouger un tout petit peu vos croyances ou votre non-croyance, je ne sais
pas. Non, mais j'ai trouvé que cette manière d'humaniser le Dieu était très intelligente et puis ça correspond à quand même, je pense que c'est une nécessité d'aborder les problèmes de Dieu comme il l'a abordé.
J'ai le sentiment que l'on soit athée, agnostique ou croyant, et quelle que soit la religion, tout le monde peut se retrouver dans la pièce sans être choqué.
Tout à fait.
Parce que c'est pas un Dieu non plus omnipotent, c'est plutôt un Dieu qui est en train de faire un constat d'échec, d'impuissance, et qui dit « je suis fatigué », c'est Nicolas Hulot, quoi. « Je suis fatigué, je suis tout seul ». Non mais pardon, donc on n'est pas en train d'ériger une figure de sainteté ou en train d'essayer de convaincre les gens de croire.
Absolument.
On n'est pas du tout dans quelque chose de...
Il n'y a pas de prosélytisme, non.
Pas du tout.
Non.
Mais il y a le sentiment qu'il n'a pas obtenu exactement ce qu'il espérait, en tout cas, que l'on a un peu abîmé sa planète, qu'on a un peu abîmé.
Il trouve que les gens ont beaucoup d'ingratitude.
Ouais. Les hommes, surtout.
Les hommes ont plein d'ingratitude parce qu'ils disent, ils savent tous que je suis là-haut, j'ai jamais un coup de fil.
Ils sont jamais contents.
C'est comme si j'existais pas.
Ouais. Ils sont jamais contents.
Et il y a quand même une espèce de souffrance. Il aime pas.
C'est pour ça que je disais qu'il croit même plus en lui. Non,
c'est vrai.
Il est au bord du burn-out, Dieu, là. Il est au bout du rouleau. Il est vraiment au bout du rouleau. Faut faire gaffe.
La pièce, donc, c'est à partir du 13 septembre. Avec deux monuments du théâtre, Jean-François Balmer et Didier Benureau, s'appelle le CV de Dieu. À lire, c'est extrêmement drôle. Une seule hâte, la voir prendre toute sa mesure sur la scène de la Pépinière Théâtre. Donc à partir du 13, voici venir. Mais Tom, ça va être un succès. Vous devez me dire pourquoi ça va être un succès. Tom.
Vous me dites parce que moi je veux pas arriver trop tôt dans l'émission.
Non.
Nagui est comme Dieu, il est au bord du burn-out.
Vous êtes sûr vous voulez savoir, Nagui?
On s'est tellement parlé pendant ce week-end que pour moi ça avait déjà été fait.
Non, déjà on peut le dire, ça commence fort cette année chez nous là, à la bande originale parce que Dieu en invitait directement en deuxième semaine.
C'est fort.
Trapnar ce matin, il avait Pierre Guillouta, ça fait petit zizi à côté. Quand même. Non, mais c'est vrai. Demain on reçoit le Dalai Lama très simplement pour faire un petit bilan d'étape sur la paix dans le monde. Et puis la semaine prochaine on reçoit Michel Drucker pour la télévision qu'il a créé lui aussi en 6 jours. Bref, très simple. Donc Dieu cherche à se recaser dans le privé, hein, ça c'est le thème de la pièce. Beaucoup d'hommes politiques font ça aussi après leur carrière. Sarkozy chez Accor Hotel, Montebourg chez Habitat, Hollande à la Croissanterie, bref c'est tendance. Et du coup c'est peut-être le moment de dresser le bilan des créations de Dieu.
J'adore cette émission.
Bonsoir. Il a tout créé, il a innové, rien ne l'a arrêté. On peut le lire sans douter, Dieu a marqué son temps. Pourtant, des voix s'élèvent et mettent en doute son sérieux et sa motivation. Dieu a-t-il été à la hauteur? Y a-t-il des zones d'ombre dans sa création, plongée dans l'univers de celui qui a créé la Terre, mais qui s'est un peu loupé sur deux, trois trucs? Jingle.
Ou pas. Pas.
Bon, bref.
Son
non, mais c'est vrai.
Son interdit.
Merci beaucoup, Jérémy. Non, mais c'est vrai. Non, mais il faut reconnaître que Dieu, il a jamais eu peur de faire des heures dans le boulot. Ça, on peut le dire. Tu vois, le mec, il a annoncé dans son programme qu'il allait créer la Terre en 7 jours. Bon, il a tenu les délais. Il l'a même fait en 6. Tu vois, il était en avance. Faudra juste nous expliquer pourquoi un mec, Dieu, a réussi à tout faire en une semaine quand il n'y a pas un seul putain de chantier dans le monde qui n'ait pas du retard avec 150 ouvriers. Ça, c'est terrible. Tu vois, il a tenu les délais. Il y a même eu, bon, il y a quand même eu des petits couacs. Non. Regardez, par exemple, les paysages. T'as des dans un endroit, c'est magnifique, la Polynésie, le Grand Canyon, même Marseille, c'est réussi, c'est bizarre. Mais il y a des trucs, on en parle dans la pièce, c'est bâclé.
Ouais.
Tu vois, par exemple,
la de zone... l'autre côté de
non, la zone portuaire du Havre, tout simplement, ou le pôle Nord. Tu sens qu'il en avait un peu ras le cul, Dieu. Tu as balancé du béton et des grues n'importe où, ou peindre tout en blanc avec de la neige. Tout le monde peut le faire, c'est vrai. Après, il y a la répartition des peuples aussi qui est un peu bizarre, parce que tous ceux qui ont de l'argent, ils vivent dans des endroits moches, et les pauvres, souvent, on les met dans des endroits où il y a de l'eau turquoise avec des palmiers et du soleil. Bon, en même temps, c'est bien parce que ça permet aux riches de voyager, et les pauvres, ils sont déjà sur les lieux de vacances, donc ça, c'est pratique. Non, mais c'est vrai. T'imagines des Malgaches à Berlin, la double peine. Non, mais sinon, dans l'ensemble, Dieu, il a fait bon travail. De là à dire que c'est le candidat idéal pour une boîte, je sais pas, parce que déjà, s'il veut bosser que 6 jours par mois, il va finir carton chez Auchan en hôtesse de caisse. Et puis s'il veut bosser que 6 jours par an, bah Nelson Montfort, il l'a déjà le poste, donc ça risque d'être compliqué, tu vois. Allez, bonne chance Dieu. Je sais pas si Dieu existe, et j'espère qu'il n'existe pas, parce que si c'est une vanne faite par un mec qui a des milliers d'années, quand même, faudra justifier 2-3 trucs, dont le Havre. Allez, bonne émission.
Merci.
C'est
vrai, je repense à la peinture dans la pièce très présente où le DRH vous dit mais alors les hommes pourquoi autant de couleurs, il y en a des blancs, des noirs, des jaunes, des rouges.
Et il répond, je les ai peints avec les couleurs qui me restaient.
Plus de bleu, plus de vert.
Parce que le bleu, j'avais calculé un peu juste, parce que j'avais sous-estimé le ciel des Antilles, ouais. Et le vert, j'ai même pas pu finir la Normandie. C'est pour ça que j'ai fait les falaises en blanc.
Et il n'est pas d'accord pour peindre les hommes tout d'un coup de la même couleur.
Oui, parce qu'il a dit que c'est trop tard, évidemment. Il reconnaît son erreur. Ouais. Il dit que c'est trop tard parce que maintenant les gens ne seraient plus d'accord.
Et c'est là, encore une fois, où les hommes ont mal compris ou mal vécu l'idée de Dieu au début. Et aussi. Après, Dieu se dit...
Il faudrait demander au Dalai Lama.
Bah demain.
C'est...
Ah bah non, on ne le reçoit pas finalement.
Ah bon?
D'accord, non. Voici Jérémy Crédville.
Allez.
Ah oui, c'est maintenant. Vive.
Eh bien, merci Nagui pour ces lancements si péchus dont toi seul et Jean Soucoque ont le secret. C'est marrant parce que...
T'as raison, c'est pas la même chose.
Eh oui, c'est marrant parce que toi, on te parle souvent de taratata et moi, on dit souvent t'as tout raté. C'était le jeu de mots du lundi. Alors, attention, je vais faire une chronique sur un thème original aujourd'hui. La rentrée. Oh mon Dieu, mais cet homme est fou, lancer un tel pavé dans la mare. Merci Maïté. C'est le nouveau France Inter, vous savez, on fait du buzz. Nicolas Hulot démissionne en direct, Constance termine chronique seins nus, et moi, le jour de la rentrée, paf, je pars de la rentrée. C'est
fou.
Mon côté, c'est mon côté Edoui Plenel. Alors attention, quand je parle de la rentrée, je vous parle de la vraie rentrée, hein, pas le truc catastrophique qu'on a eu à l'antenne la semaine dernière. J'avais bien dit que c'était trop tôt, il y avait 6 personnes dans le public, dont 2 techniciens, ce qui ne change pas vraiment aujourd'hui. Hein. Deux techniciens, bonjour, 2 techniciens qui géraient les nouvelles caméras, car oui, maintenant, on filme la radio, moi j'appelle ça une télé. Si ça continue comme ça, vous savez, en 2025, on aura le son, les images et l'odeur. Et comme le dit mon grand-père, Nagui, il a beau avoir de belles chaussures, il sent des pieds pareils. Mon grand-père est suisse.
Oui,
revenons-en à l'événement du jour, la rentrée scolaire. Hein, on le sait tous, pour les enfants, la rentrée, c'est important. Pour les parents, la rentrée, c'est du passé. Pour les étudiants, faut bien viser. Moi, je me suis procuré une liste de fournitures scolaires auprès de Titouan, élève en CP. Avouez que c'est assez cocasse de mettre procuré et élève de CP dans la même phrase. Moi, personnellement, je n'ai aucune attirance particulière pour les enfants, je suis athée. Mais je viens du Nord. Ah, dilemme.
Arrête.
Alors, j'arrête. Voici ce que le professeur des écoles de Titouan demande, et vous allez voir que travailler 24 heures par semaine avec 30 enfants pour 1600 balles par mois, ça attaque un peu le cerveau. C'est à se demander si Morin n'a pas été instit. Alors, sur cette liste, c'est il drôle. Est noté que Titouan doit amener le premier jour des stylos à billes,
4 bleus, 1 rouge, 1 vert. Voilà, c'est tout. C'est quand même vachement discriminant pour les stylos noirs. Hein, je dis ça. Je quel message veut donc faire passer l'enseignant? Est-il au courant qu'il existe des stylos 4 couleurs, hein, stylo où cohabitent bleu, trop rouge, gros, vert et noir, mais qu'on ne peut pas sortir en même temps. Allégorie. Mais continuons. À votre avis, combien de gommes on lui réclame à Titouan? Allez-y, c'est intéressant.
3. 7.
Une. Pour l'année scolaire, c'est...
Non, non, vous pouvez même jouer dans la voiture ou chez vous, mais j'entendrai pas la réponse. Non, c'est 7. 7 gommes. Et pas n'importe quelle gomme, 7 gommes blanches. Là encore, je trouve l'enseignant un peu insistant. Après, je comprends qu'ils ne veuillent pas de gomme rose et bleue, hein, ces gommes-là, comme le dit Titouan.
C'est de la merde.
Merci Titouan. Non, il a raison. Dans les gommes rose et bleue, le côté rose ne gomme rien, le côté bleu, c'est pire, il ponce la feuille.
Exact.
Ensuite, on a dans cette liste une bonne paire de ciseaux de papier, à bourron, 12 cm.
Ah oui.
Ouais, là, c'est contradictoire. 12 cm. Une bonne paire de ciseaux à bourron, c'est un peu contradictoire, c'est soit une bonne paire de ciseaux, soit une paire de ciseaux à bourron. Hein, puisqu'on le sait très bien, les bourrons, ça ne coupe rien. Contrairement à Nagui, qui en a une bonne paire, mais qui coupe parfois la paroi.
Ça va pas.
Cadeau. Pareil, un bourron de 12 cm, je trouve ça limite. Moi, je vous le dis, cet enseignant est complètement taré. Bonsoir, les orthophonistes. Il a choisi l'enseignement, donc c'est très certainement un masochiste, et il demande aussi 10 crayons gris, 10 feutres d'ardoise, 15 bâtons de colle. Wow. Bien entendu, oui. 15 bâtons de colle. À mon avis, le mec la sniff, hein, faut bien les utiliser, les 15 bâtons de colle. Alors forcément, les gamins les bouffent. Et quand c'est pas les gamins, c'est les tortues qui les mangent parce qu'elles ont pris ces bâtons de colle pour des poissons à cause de Findus qui fait des bâtonnets bizarres. Alors, ok, elles sont un peu connes, les tortues, parce qu'on voit bien que les bâtons de colle n'ont pas de branchies ou que les poissons ne sont pas jaunes avec marqué UHU dessus. Mais l'eau de mer, ça pique les yeux, du coup, elles voient flou. Et puis après tout, un poisson-chat, ça ne ressemble pas du tout à un chat. Alors pourquoi un bâton de colle devrait-il ressembler à un poisson? Alors elles mangent les bâtons de colle et elles meurent étouffées à cause d'un simple enseignant de CP raciste. Ben moi, je vous le dis tout de go, en cette rentrée, vivement les vacances.
Merci, Jérémy Crédit.
France Inter. Tu vois, Nagui, la bande originale.
J'ai un 4 couleurs, on peut faire les 4 couleurs en même temps.
Tu as enlevé le bout.
Oui, t'as tiré le bout.
Bah oui.
Bien joué.
Puisqu'on en parlait tout à l'heure. Jean-François Bellemare est notre invité. Il sera le 13 septembre à la Pépinière Théâtre avec le CV de Dieu face à Didier Bénureau, mise en scène par Françoise Petit. Vous l'avez donc joué cette pièce à Avignon. Est-ce qu'on refait des lectures? On change des choses dans la mise en scène? Dans quel...
Oh, il y a une petite adaptation qui va se faire à partir de demain. Et si vous voulez, c'est pas exactement le même théâtre, mais on a joué effectivement. Moi, c'est la première fois que j'allais à Avignon.
La première fois.
C'était quand même impressionnant. Ouais. Je veux dire, il y a 1538 spectacles dans le off. Ouais. C'est quand même.
Ce qui est surprenant, c'est que ce soit la première fois que vous y alliez.
Non, parce que moi, la foule, ça me fait un peu peur. Avignon, je n'avais pas envie de le connaître. Et puis, enfin, ça
pourquoi
c'est bien...
ça fait trop branchouille, genre de théâtre, c'est ça?
Un peu, mais il faut quand même reconnaître que, contrairement à moi, il y a quand même du public qui aime aller au théâtre.
Vous n'aimez pas ça?
Enfin, en payant, vous voulez.
Moi, je vais au théâtre quand je joue. Mais,
c'est déjà bien, c'est déjà ça.
Mais vous n'allez pas voir les camarades? Vous avez beaucoup joué avec Jacques Weber, par exemple.
Oui, mais ça m'arrive d'y aller, mais.
Par erreur.
Oui, par erreur. Non mais je suis content de voir des créations, pas forcément des choses que on connaît un peu trop souvent.
Alors j'imagine que maintenant vous avez changé d'opinion sur Avignon grâce au travail du CV
de
Dieu.
Non.
Ah bon?
J'ai trouvé ça s'est très bien passé, mais parce qu'il faut reconnaître qu'il y a aussi une ambiance des spectateurs qui vont d'un spectacle à un autre, et c'est vrai que on a fait un gros succès, mais ça veut pas dire qu'on le fera le même succès à Paris, parce que des types en tongs ou à pieds nus, ils n'ont pas forcément la même appréhension, la même envie.
Alors les types en tongs à pieds nus, ça peut être moi, donc éventuellement, ouais, l'été change de genre, mais ce que je veux dire par là, c'est que, non, être un peu adoubé à Avignon et connaître le succès que vous avez connu, il n'y a pas tant de pièces que ça du off qui ont cartonné, c'est un indicateur très très fort.
Oui, en tout cas,
c'est encourageant.
C'est plus qu'encourageant si on est sincère. Vous venez à Paris avec cette pièce, d'un coup vous êtes programmé dans un grand théâtre, c'est pas rien.
Non, mais je veux dire qu'on était programmé avant.
Oui.
Et puis,
Vous saviez que vous alliez jouer à Paris avant de passer à Avignon? Parce que souvent, les producteurs ou les directeurs de théâtre repèrent des pièces à Avignon après les font signer à Paris.
C'est pas notre cas. On en a l'air, mais on n'est plus vraiment des débutants.
Mais pourquoi vous êtes infligé cette souffrance d'aller à Avignon?
Mais c'est parce que actuellement, les choses, il fallait rôder, et ça c'est bien, je reconnais que c'est un avantage d'avoir joué une vingtaine de fois, mais deuxièmement, maintenant, c'est une espèce de passage obligé pour les tournées à venir. C'est-à-dire que les gens, pour des raisons économiques, avant les gens qui dirigeaient des théâtres, ils pouvaient se permettre d'aller en TGV à Paris, passer une nuit, voir un spectacle éventuellement deux ou trois. Et tandis que l'avantage d'Avignon, c'est de pouvoir en 3, 4, 5 jours tout faire leur
marché
tout en même temps.
Pour
leur marché, comme Cannes, c'est le marché du film, ça c'est le marché du théâtre. Et puis voilà. Et donc tout est fait. Donc, c'est une question. L'imagination est économique.
On va. Ah, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est totalement vrai.
Non, et puis ça va aussi. Vous allez au contact d'un public qui ne pourrait pas être à Paris.
Oui,
c'est aussi ça, Avignon. C'est la chance
Et puis c'est vrai que c'est non, mais c'est quand même c'est bien de voir. Je reconnais que j'ai laissé un de gros préjugés là-bas.
On va les retrouver. Vous étiez à quel hôtel? On va retrouver vos préjugés. Ne vous inquiétez pas. On va parler de votre bande originale. On a mis en musique quelques dates essentielles de votre vie, comme par exemple la naissance. C'est votre enfance où vous écoutiez.
Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre signale et merle moqueur seront tous en fête.
Je précise que vous nous avez parlé du temps des cerises et pas de la version d'Yves Montand. Nous avons choisi cette Yves Montand.
Non, mais c'est une très bonne idée.
Elle vous évoque quoi, cette musique, cette chanson, quand vous l'entendez?
Ça me fait plaisir d'écouter mon temps que j'ai croisé dans La Menace de Corneau, et qui était un personnage tellement touchant, tellement fin, contrairement à ce qu'on pourrait colporter. Et il était humainement bouleversant, je trouve.
Et il était engagé aussi. Tout à l'heure, on parlait de l'engagement de Daniel Cohn-Bendit. C'était aussi le cas d'Yves Montand, même si
bien sûr,
ses engagements, il les a ensuite regrettés par rapport au comportement du communisme. Et...
Oui, mais enfin, moi, je suis pas du tout engagé. Je suis engagé
je parle
en
de
rien.
Non, je parle de lui.
Oui, à lui.
Je parle de lui.
Et 46, c'est votre naissance en Suisse. Vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous dites, voilà, je voulais devenir comédien et en même temps, j'aurais pu devenir alpiniste.
Oui, c'est-à-dire que ça, c'est de la vantardise. Oui.
Ça veut dire quoi, ça?
Non, mais parce que j'avais des cousins qui m'entreuillaient dans des grands sommets, c'était extrêmement impressionnant de se trouver à 4000 mètres, mais j'étais second, hein, évidemment, tout d'un coup...
Faites le geste comme si on vous tirait pour que vous
montiez... C'était ça, moi, d'être... Et puis, avec ces découvertes qui fait que tout d'un coup, quand le soleil se lève, on pense qu'on croit qu'on aura chaud, et puis il y a toujours un vent froid formidable qui vous enveloppe et tout ça.
En termes de couleurs, vous avez dû voir des...
Ah oui, c'est absolument...
Des peintures de Dieu formidables.
Magnifique. On se met à croire en Dieu. On voudrait bien croire en Dieu.
Et alors pourquoi?
Moi, je crois que je crois en Dieu. Parce que j'étais pas capable. Parce parce que c'est un métier. Parce que c'est des types. Vous comprenez quand vous voyez des espèces de zigotos et qui sont en tongs, comme vous me parliez tantôt.
escalader
au sommet. Et puis après que ce sont des colonnes de gens qui doivent aller les chercher. C'est quand même un peu lourd.
Donc finalement quoi, acteur, c'est le deuxième choix?
Non, acteur, c'est parce que j'ai cru très tôt que j'étais un acteur. Et alors, si vous voulez, j'habitais un petit village près de la forêt et j'ai passé des heures et des heures dans la forêt à marcher, mais même très tardivement, c'est-à-dire que moi j'ai fait l'école supérieure de commerce et on m'a dit le travail avant le plaisir et j'ai fait un diplôme et en revanche je rentrais chez moi et pendant une ou deux heures je marchais dans la forêt pour
déclamer des textes,
etc. Ça, je pense que c'est ce que j'ai sûrement fait de mieux, mais là où je suis, je pense aussi que j'ai peu perdu depuis ce moment-là. Et c'est sûrement ça, ma singularité.
Ça veut dire quoi, peu perdu,
dans l'envie de jouer et peut-être dans la manière de jouer.
Bah, tant mieux pour nous. Tant mieux pour nous.
Elle est je réfléchissais dans Dieu, non, il faudrait que j'en remette un petit peu plus.
D'accord. Bonne nouvelle pour ceux qui ont la pépinière. Au début des années 70, vous écoutiez Véronique Sanson.
Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te t'aiment, c'est drôle de poème et bien avec moi.
Quand vous écoutez une chanson comme celle-ci, c'est le texte qui vous parle, c'est la mélodie entraînante.
C'est les deux, je vois. Franchement, les deux, c'est des souvenirs très précis. C'est l'époque du conservatoire, c'est une espèce d'époque bénie quand même. Et puis, moi, j'adorais vraiment cette chanson. J'ai écouté des milliards de fois.
Elle a eu une deuxième vie grâce à la bande originale d'un film de Géraldine Nakache, Tout ce qui brille, où toute une génération a redécouvert cette chanson, avec même sa petite faute de français.
C'est quoi la faute de français, Nagui ?
Écoute. Alors c'est tout à l'heure. Je fais ce que j'ai envie.
Oui, ouais. Ce dont.
Oui. Voilà. Dans cette chanson, elle dit.
Quelle chanson pourrie.
Non, mais non. Non, mais non. Ça s'appelle la licence poétique, la liberté.
C'est ça.
Je fais ce que j'ai envie.
Ah bah c'est bien pratique, ça.
Et qui plus outre,
probablement que le que est plus facile à mâcher et à balancer que le don.
Très bien. On s'arrange avec la langue.
Parce qu'elle aurait pu écrire.
Et puis Véronique Sanson, on lui pardonne tout.
Ah ouais. Voilà.
Là, c'est déclaration d'amour. 70, c'est le conservatoire, vous l'avez évoqué. On parle de Weber, Villeray, Huster. On parle beaucoup de la bande en R autour de vous, monsieur Balmer. C'est quoi? C'est le hasard?
Ouais, j'ai pas remarqué ça. Ouais,
non, mais c'était un.
Il y en a un quatrième qui manque.
Spesser.
Voilà.
Spesser, c'est-à-dire que c'est le premier film qu'on a fait RAS de Yves Boisset, et moi je l'ai fait grâce à Weber, Villeray et Spesser qui m'ont plus ou moins imposé sur le parce que Huster entrait à la Comédie Française.
Ah,
et donc si vous voulez,
c'est rare ça comme histoire des comédiens, des copains qui s'imposent, qui montent ensemble, qui
c'est-à-dire que je c'est rare. Non, je pense
que... Be Free, tout ça.
Francis Huster, que nous recevrons à ce micro vendredi.
Oui, c'est ça.
Dans la bande originale.
Normalement.
Non, parce que vous dites qu'ils vous ont imposé sur le film, c'est pas rien.
Non, mais c'était gentil pour eux que je dis.
Ah, d'accord.
En 1999, vous écoutiez, j'adore, Johnny Cash.
I wear the black for those who've never read. Or listen to the words that Jesus said about the road to happiness through love and charity. Why you think he's talking straight to you and me?
Quand on aime Johnny Cash, généralement on aime aussi Bob Dylan, Bruce Springsteen, voilà,
absolument. Et puis vous Willie aussi. Nelson et les Highwaymen, c'est oui. Impossible de pas aimer ça. Moi, je n'ai fait que ça, que écouter. Moi, je suis un grand écoutateur professionnel et je me balade et j'écoute la radio.
Et 99, c'est l'aventure boulevard du Palais. De 99 à 2017,
wow.
Vous incarnez le commandant Gabriel Rovert dans cette série policière. C'est toute une partie d'une vie à servir un personnage. Il existe encore avec soi.
C'est plutôt le personnage qui m'a servi.
C'est vrai.
Et qui nourrit.
Ouais. On vit l'un avec l'autre, quoi, en gros. Avec le personnage, avec soi, c'est...
Oui, c'est très généreux ce que vous dites, mais Moi, je pense qu'on a. J'ai toujours dit que c'est les rôles qui étaient importants. C'est le rôle qui fait l'acteur. Donc, si vous voulez, au départ, c'était quand même un personnage tout à fait passionnant, inspirant. Et puis après, l'auteur a arrêté. Ce sont des scénaristes qui ont fait le. Mais moi, j'avais un droit de. On n'osait pas, personne n'osait rectifier ce que j'écrivais.
Ah, vous étiez libre.
J'étais à peu près libre.
Ah, 18 ans en incarnant un même personnage.
C'est pour ça que j'avais un peu de peine à quitter, quoi. Mais si vous voulez, d'abord, on n'a pas du tout vu la trajectoire de ces longues années. On a commencé par deux, et puis après deux. Et après, on m'a proposé 6, et j'ai dit non. Et de 2, on a passé à 3. Et rapidement, on a dit, on peut pas faire 3 parce que c'est 4 ou rien. Et puis, tout d'un coup...
Là, on est dans les considérations commerciales de négociations et de contrats. Est-ce qu'il y a une lassitude? Et le problème de la lassitude dans votre métier vient des scénarios que l'on lit et des histoires.
Moi, je suis très prétentieux, vous avez compris. Mais en revanche, je peux dire devant Dieu et les hommes...
C'est vous, Dieu.
C'est moi. Je n'ai jamais eu de lassitude. J'ai tout ce que j'ai fait.
Dans ce que vous faites, mais dans ce que vous lisez et que vous n'avez pas envie de faire.
Oui.
Voilà, bon, là, il y a du dossier, là. Oh là là là. Là, on l'a senti, là.
Non, c'est vrai, après toute une carrière comme la vôtre, on s'estime avoir été bien servi ou pas dans les. C'est une épreuve que d'aborder un scénario, de se dire au secours, ça va. J'ai encore une chance sur deux de m'ennuyer.
Non, parce qu'en principe, je ne le fais pas.
Non, mais la lecture, déjà, faut lire.
La lecture, c'est quand même la moindre des politesses que de lire.
Vous refusez beaucoup de rôles?
Ça m'arrive, oui, ça m'arrive. J'ai pas toujours été...
Inspiré?
J'ai pas toujours été inspiré. Il y a des choses que j'aurais dû faire. J'aurais déjà dû venir dans les médias depuis longtemps.
chez nous.
Mais maintenant qu'on se connaît, Jean-François,
c'est que le début. On va revenir.
Le fait que
j'ai bientôt
vous
mon rond de serviette ici. Je viendrai avec tellement de plaisir.
C'est la moindre des choses.
Et puis, j'avouerai à Daniel Morin certaines choses. Effectivement... Il soulève des vrais problèmes. Par exemple, c'est sur le fait d'avoir refusé. J'ai refusé des choses avec en manquant franchement d'élégance et de finesse. Oui, parce que j'ai pour habitude de dire exactement ce que je pense. Ce qui n'est pas forcément fin et ce qui ne correspond pas exactement au métier. Non. Et, en plus, vous avez la double peine qui consiste à dire, voilà, je ne veux pas faire ce scénario parce qu'il y a ça, ça, ça et ça. Et donc le type est vexé. Ouais. Il est forcément vexé.
Il est atteint.
Pour qui se prend ce mec, il n'est même pas une vedette. Il dit non, etc. Et après, quand le film sort... Les points que j'ai mis en exergue lui retombent complètement à la gueule. Donc, si vous voulez.
Vous n'avez eu aucun regret inverse de refuser un rôle et après
si,
de vous rendre compte que vous auriez
mais
dû.
Mais je le dirai pas.
Donc, des excuses à présenter peut-être, comme Daniel, en fait. C'est ça l'histoire.
Ne dites pas, oui, c'est ça. Ne dites pas que celui que vous avez refusé et que vous regrettez, mais c'était lequel.
Mimez-le chez les ch'tis.
Mimez-le.
Non, c'était pas forcément des.
Et c'est par amour propre que vous ne le dites pas.
C'est Titanic.
Non, c'est pas du tout.
Wonder Woman.
Non. Je me suis jamais trouvé dans des choix de gros films médiatiques. Non,
Et pas dans Avengers.
Expliquez-moi pourquoi vous ne voulez pas dire je regrette de ne pas avoir fait tel film. Par quoi? Au contraire, la personne qui avait essuyé un échec.
Mais elle sait, je lui ai dit, alors ça suffit.
Mais le fait d'être franc et honnête dans cette industrie, vous vous sentez pas un peu à la marge?
Complètement. Ouais. Complètement, c'est d'une...
Alors c'est quoi, c'est le d'abord film
Soyez franc.
C'est quoi le film? Moi j'écoute, hein, c'est bizarre. Mais
puisqu'on en parle.
Virginie Larousse vous a rejoint. Bonjour Virginie.
Bonjour.
Hey, bonjour. Vous êtes rédacteur en chef du Monde et Religions, une habituée. Dès que nous évoquons les religions ici, nous voulons avoir votre...
c'est votre truc. À la religion, dès qu'on en parle, vous vous pointez.
Bah oui.
Bah, c'est vous qui m'invitez. Hein.
Elle est rédacteur du Monde et Religions. Écoute, elle est bien placée. Vous avez lu cette pièce, le CV
pas
de
du
Dieu,
tout.
L'idée que Dieu puisse chercher du travail. D'ailleurs, si on devait définir Dieu, comment faire?
C'est compliqué de définir Dieu parce que ça dépend beaucoup des civilisations en fait où on se trouve, et la conception que les hommes se font de Dieu varie énormément en fonction des religions à proprement parler. Mais pour résumer, on peut dire que Dieu dans l'esprit des hommes, c'est celui finalement qui a créé le monde, qui le domine, qui décide de tout, qui décide à la fois de votre destin, Nagui.
Donc il est, ah oui, c'est déjà signé quelque
c'est
part.
C'est déjà signé.
Ah, vous n'avez pas une copie?
C'est écrit.
Bah, je vais essayer de m'en procurer une, mais bon.
Toi, tu l'as lu apparemment.
Oui, faut pas savoir.
Ça veut dire que quoi? C'est rassurant de savoir que tout a été décidé avant, tout a été écrit, tout a été fabriqué.
Alors rassurant, je ne sais pas si c'est rassurant, mais en tout cas, c'est peut-être une manière pour les hommes qui sont mortels et qui sont restreints finalement dans leur pouvoir, d'imaginer une sorte de contre-personne qui, elle, a un pouvoir illimité et qui finalement ça les dédouane aussi d'une certaine manière de leur responsabilité. Donc ça, c'est une vision qui est assez communément partagée chez les croyants, de penser que finalement, bien sûr qu'ils ont un rôle à jouer dans leur vie, mais que finalement, quand on dit par exemple à quelqu'un bah, c'était pas son heure, il y a cette idée finalement que c'est autre part que ça se décide. Et c'est pareil d'ailleurs pour le destin de l'humanité en général, puisqu'on parle d'apocalypse. Donc tout ça, c'est l'idée d'un être vraiment qui transcende tout.
Quand vous dites justement mortel, et on l'évoque aussi dans la pièce, il faut bien qu'à un moment donné, cela s'arrête. On a le sentiment aussi que les dieux aident généralement ce passage. C'est-à-dire que face à la mort, certains se sont rassurés de savoir que c'est un dieu qui va les accueillir ou qu'il y a un au-delà.
Il y a un au-delà, qu'il y a peut-être une vie dans l'au-delà. Donc en effet, il y a quelque chose de consolateur dans la religion. C'est difficile de se dire que tout passe. Et c'est vrai que l'idée de se dire qu'il y aura un au-delà, effectivement, peut réconforter. Et par ailleurs, ça peut obliger certaines personnes à avoir une éthique de vie. C'est parce ça. Qu'on se dit, attention, il y a quelqu'un qui me surveille. Donc, c'est une vision un peu infantile, finalement. Mais il y a de ça, en tout cas, dans l'idée de Dieu.
Aidez-moi, Jean-François Belmer, parce que j'ai plus tout le texte en tête, vous l'avez sûrement. À propos de la mort, Dieu explique qu'il a créé la vieillesse, justement, pour aider à supporter la mort. C'est-à-dire qu'on s'ennuie.
Oui,
c'est ça, on s'ennuie de plus en plus. Ou alors on veut que ça s'arrête, quoi. On en a marre d'être vieux.
Oui, c'est ça.
C'est une mort qui intervient, voilà, au bout d'un certain temps, quoi, c'est ça.
Il me semble, c'est l'idée en tout cas.
C'est tout à fait juste.
C'est l'idée. Est-ce que,
page 39, Jean-François.
Est-ce que Dieu est forcément masculin?
Alors,
bien sûr, quelle question.
En autre, disons, dans les conceptions.
Et Dieu est macho?
Mais pas du tout.
En tout cas, il aime le foot.
Religions monothéistes, c'est vrai que Dieu est envisagé uniquement d'un point de vue masculin. Mais c'est, peu de gens le savent, mais en fait, dans la Bible, les textes les plus anciens de la Bible montrent que Yahvé, en fait, était accompagné d'une compagne, d'une déesse qui s'appelait Asherah. Mais les textes les plus récents de la Bible se sont attachés à détruire cette déesse en disant que c'était à cause d'elle finalement que le peuple juif avait été déporté à Babylone.
Et donc Pandore, la boîte de Pandore, voilà, c'est tous les mots sont
exactement.
Toutes les femmes sont responsables de tous les maux de la planète.
Et Dieu est devenu effectivement totalement masculin, ce qui n'est d'ailleurs pas sans poser problème puisque c'est difficile finalement de s'imaginer un Dieu qui n'est que masculin. On élude la moitié de l'humanité et du coup c'est vrai qu'on voit que le féminin dans les religions monothéistes revient quand même toujours par la petite porte avec Marie,
Marie-Madeleine.
Voilà. Exactement, la présence
Françoise.
Alors, je voudrais ajouter, grâce à la page 39, et si j'ai voulu vous faire vieillir, c'est pour vous rendre la mort plus douce. C'est moins triste de mourir quand on est moche et plein de rhumatisme. Alors, avant de vous retirer la vie, j'ai voulu vous en dégoûter, ça partait d'un bon sentiment.
Mais c'est bien d'avoir des extraits comme ça, parce qu'on se rend compte maintenant, elle est extrêmement drôle, cette pièce. Le bon Dieu, d'ailleurs, l'expression est employée dans la pièce, il est pas toujours bon.
Et non, il n'est pas toujours bon. Alors c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un peu le talon d'Achille des religions monothéistes, puisque si Dieu est parfait et qu'il a créé le monde, par essence, le monde devrait être parfait. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de tout à fait crucial, de comprendre pourquoi il y a le mal. Et donc les religions disent que finalement, si le mal existe, eh bien en fait c'est la faute des hommes, puisque Dieu a créé les hommes, mais il les a laissés totalement libres, et donc ils peuvent tout à fait mal agir s'ils le souhaitent, c'est leur problème.
C'est ce qu'on retrouve dans la pièce.
C'est la pirouette, ouais. Finalement.
C'est une petite garantie pour ne pas se faire attaquer en justice.
Oui,
vous
voilà.
Avez prévenu que c'était pas
parfait. Ça prévente.
Ouais, c'est ça.
Le monde des religions.
Le côté d'Arty du Seigneur.
Le nouveau numéro a pour titre S'effacer du monde pour mieux le retrouver. Une tendance, mais peut-être un besoin de silence, de méditation, de période de jeûne et ainsi de suite. C'est totalement dans l'air du temps. Merci beaucoup, bonjour. Virginie Larousse, d'être venue à ce micro. Merci. Tanguy Pastureau, bonjour Tanguy.
Bonjour Nagui, bonjour
Agnès
à tous.
Agnès Salle a retrouvé un emploi.
Oui, ça, c'est formidable de donner une seconde chance à cette dame courageuse qui tente de se réinsérer dans la société. Agnès Salle, souvenez-vous, a passé 10 ans de sa vie à prendre des taxis. Chez G7, on l'appelait Altesse. Elle a été sanctionnée par une justice gangrénée par les lobbies des cyclistes. Enfin, elle revient, Nagui.
Et vous aussi, mais ça sera après les infos de midi. C'est la bande originale, soyez bienvenue si vous nous rejoignez avec Leïla Kadoboudedi.
Bonjour à tous.
Tanguy Pastureau, Jérémy Crédville, Tom Villa, bonjour. Daniel Morin.
Ah, quand même.
Et notre invité Jean-François Palmer.
Bravo.
Il y a le culot de venir nous parler d'une pièce de théâtre qu'on n'a même pas vue.
Ouais, c'est abusé.
Ce jeu de la promotion, je trouve ça honteux.
Mais ça ne le dérange pas, a priori.
Mais je dénonce, monsieur.
Oui,
vous avez raison. Je dénonce. Jean-François Belmer est au théâtre avec Didier Bénureau. Ces deux monstres sacrés des planches se retrouvent pour le CV de Dieu, signé Jean-Louis Fournier, mise en scène par Françoise Petit, avec une pièce. Alors, je sais que vous allez m'arrêter si je me trompe. J'ai le sentiment que cette pièce est en deux.
Stop.
En deux parties, que le début est vraiment une discussion de très positive et très avec une vision de Dieu extrêmement positive, et ça bascule en interrogatoire avec une liste de reproches faits pour les reproches par Didier Bénureau.
Moi, je préfère décidément les gens qui n'ont pas vu le spectacle parce que vous exprimez parfaitement, rigoureusement, absolument. C'est l'exacte définition de la pièce.
Mais c'est la même chose quand on les voit, les spectacles. Oui, vous seriez étonné, mais bon, après, il faudra revenir une autre fois. Bon.
Mais c'est la même personne qui fait leur fiche, hein, de toute façon, qui l'a
dit. Oui, ça se voit, regarde.
En tout cas, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça commence par une espèce de jeu un peu rissolé, et puis après, tout d'un coup, les questions viennent un peu plus lourdes, un peu plus denses, un peu plus...
C'est plus pesant.
Emmerdantes, quoi. Mais ça reste quand même comme du Jean-Louis Fournier, c'est-à-dire un type qui dit des choses agréables et qui, sans avoir l'air, pose des questions quand même.
Alors Dieu ne croit peut-être plus beaucoup en lui, et il fait même preuve, et pardon pour ce jeu de mots facile, par moments de mauvaise foi, ce qui est le comble.
Ah, bravo.
Quand il dit par exemple ouragan, non, c'est pas dans mon CV.
Ouais,
là, j'ai pas écrit ça, non. Regardez bien.
Effectivement. Je trouve que ce Dieu était un homme extrêmement humain.
Voilà. C'est l'un des rôles qui vous est le plus agréable.
C'est le plus haut, en tout cas. c'est vrai que...
Quel plaisir vous trouvez à jouer ce personnage?
Oui, mais parce que j'ai beaucoup de plaisir à être face à Didier Bénureau, qui est le grand interrogateur Fouquier-Tinville. Et puis, tout d'un coup, par moment, c'est un petit peu étonnant de se dire que c'est Dieu comme ça, parce que... Non, c'est très plaisant. C'est pas beaucoup d'arguments, je reconnais. Il vaut peut-être mieux venir voir.
Ah oui, clairement.
Vous êtes bon en promo. Hein.
À la pépinière, à partir du 13. Ouais. Ce n'est pas la première fois que votre cher et tendre vous met en scène. Je parle dans la vie publique. Le reste ne nous regarde pas. Françoise Petit vous dirige. Vous avez choisi la pièce ensemble. Vous avez discuté ensemble du choix de Didier Bénureau.
Je vous ai dit que c'était un choix qui était très fortement suggéré par l'auteur, Jean-Louis Fournier. Jean-Louis Fournier, il voulait que ce soit Bénureau et moi. Et Françoise Petit, qui le connaissait comme acteur, et ils ont bien collaboré. Et, elle dit pas grand-chose, mais c'est vrai qu'elle dit souvent des choses justes.
Qu'est-ce qu'elle vous a dit à vous pour bien vous orienter dans l'incarnation de Dieu?
Plus fort.
Non, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on...
Non, je trouvais que je devrais travailler plus, peut-être. Je ne sais pas. Ça n'a pas d'importance.
Travailler plus pour un comédien, ça veut dire...
Travailler en profondeur. Ouais.
Aller chercher des intentions différentes.
Oui, c'est ça. Je veux dire, elle est très musicienne, elle écoute les voix, et puis c'est d'ailleurs, moi je pense qu'un acteur, c'est un travail de spéléologue. Il faudrait creuser. C'est pas simplement dire un mot. Je trouve qu'il y a une espèce de glissement un tout petit peu inquiétant dans le fait que acteur, c'est pas dire un mot, c'est savoir exactement quelle est la température et quelle est la provenance du mot. C'est ça le métier d'acteur. Et je trouve que c'est ça un peu ce qui se perd un peu. Je veux pas dire ce qui se perd.
À propos de creuser dans la pièce...
Je vais me faire engueuler comme Véronique, ma Véro et moi.
Dans la pièce est évoqué le problème de pollution et de pétrole. Et justement, lorsque le DRH pose la question de savoir mais pourquoi cette saloperie du pétrole, j'ai tout nettoyé, je savais pas quoi en faire, j'ai creusé, j'ai mis ça au fond, je pensais pas que les hommes allaient chercher à récupérer le pétrole pour empoisonner la planète.
Et là aussi, noircir le ciel et je sais plus.
Et là encore une fois, ternir les couleurs, parce que c'est une véritable toile. C'est une pièce écrite, mais c'est une toile peinte, cette pièce. Il y a beaucoup de couleurs en permanence, il y a beaucoup d'évocations et d'allusions faites autour des couleurs et même de la texture des couleurs, puisque la peinture dans le ciel, elle est à l'huile pour...
À cause de la pluie et
des
intempéries, absolument.
Le 13, à partir du 13 septembre, à la Pépinière Théâtre, le CV de Dieu. Voici Tanguy Pastureau.
Mais oui, Tanguy.
Tanguy, enfin une éclaircie en France en ce qui concerne l'emploi en tout cas.
Oui, les gens retrouvent du travail, certes pas tous, à vrai dire la plupart non. Mais enfin, si on prend juste comme repère Agnès Salle, c'est un succès. Agnès Salle, souvenez-vous, c'est cette dame qui ne marche pas. Elle est toujours sur la même paire de mocassins achetés à la halle aux chaussures en 94. Les fétichistes des pieds se tripotent en pensant aux siens qui sont immaculés. Elle ne les utilise tellement pas que si elle va aux toilettes à pattes, elle se fait une ampoule. Non, elle s'est toujours déplacée en taxi, un mode de transport atroce car on y entend RMC Info. J'ai jamais pris un taxi dans lequel le gonze écoute Inter. Ces gens ne soupçonnent même pas l'existence de Daniel Morin. Et du coup, moi, ne me reconnaissent pas, donc exactement comme dans tous les autres lieux. Agnès Salle a été directrice du Centre Pompidou, la grande boîte à cons qui s'extasie devant trois bouts de plastique que d'aucuns appellent des œuvres, de 2007 à 2014. Puis en 2014, fut nommée présidente de l'INA, dont l'activité consiste à vendre aux chaînes des images de Guy Lux contestant le score de Charleville-Mézières à Interville en 82, au motif que René, candidat zoophile mais adepte des relations platoniques, avait entamé avant l'émission une relation avec la vachette Clarisse en lui offrant de la luzerne. Celle-ci encornant par conséquent les mecs de la ville adverse, Macon. Bref, elle était tranquillou en train de refourguer des images d'animateurs morts, mais aussi de Michel Drucker, dont la carrière remonte. À Lascaux, il y a des peintures de Drucker en train de s'épouiller le pubis à côté d'un yak. Quand l'administration a réalisé qu'elle avait fait des notes de taxi longues comme la jambe d'Adriana Carambeu. Wow. Ce membre immense qu'aucun teckel, même très haute, n'ose déniaiser tellement la distance pour lui serait impossible à parcourir. Si vous n'êtes pas minimum un bison hyper excité, vous ne vous attaquez pas à cette jambe. Agnès Salle a ainsi fait 24 000 euros de frais de taxi à l'INA et 24 000 euros au Centre Pompidou. Au moins, elle est constante. Si on relance le juste prix qu'on lui présente une râpe à fromage, elle dit « je pense que ça vaut 24 000 euros ». Alors certes, faire 24 000 euros numéros de taxi à Paris. Ça va vite, hein, parce qu'Anne Hidalgo qui privilégie les modes de transport doux, c'est-à-dire tous ceux où on meurt si on tombe, a bloqué la ville. Donc 4 tours de périph' en taxi, on est à 24 000 euros. Mais le souci, c'est que c'est de l'argent public qu'elle a dilapidé. Et moi, je paye pas des impôts pour que madame fasse sa life avachée sur une banquette en sky à écouter Éric Brunet parler du niqab. Elle a donc été suspendue, telle une andouille chez le boucher, mais sans l'odeur, hein, puisqu'on sent rarement les tripes, à part 2-3 japonais qui viennent de se faire un rakiri.
Non mais moi je suis choqué. Elle a également payé une amende et a été condamnée quand même à 3 ans de prison avec sursis, il faut le
rappeler. Et oui, et en 2016 elle est revenue. Hein. Ce qui est bien quand on est haut fonctionnaire, c'est qu'on est vite pardonné. Si Agnès Salle demain dérouille Carice, on lui dit « Poussin, tu devais avoir tes raisons, ta salle de fitness a fermé, t'as pas pu te défouler. » Et au lieu de la tôle, elle va chez elle, c'est-à-dire un endroit où l'on se comporte de manière normale vis-à-vis de sa savonnette. Et on n'est jamais grillé professionnellement. Si une caissière à Carrefour pique un coupon de réduction sur les boîtes de taboulé, le boss la dégage, mais Agnès Salle qui claque 48 000 boules en taco, elle vient d'être nommée haut fonctionnaire au ministère de la Culture, chez la mère Nissen, la dame Ido à gros cuit qui paye pas son plat chez Casto. Alors bien sûr, rien n'interdit cette nomination, c'est légal, mais ça devrait relever de la morale. On devrait se dire, on va avantager quelqu'un qui a pas tapé dans la caisse. Regardez Stéphane Bern, qui est honnête comme tout, il se retrouve comme un scout de base à vendre des billets de tombola pour sauver des églises branlantes. Mais c'est à lui qu'on devrait filer le brosouf, au lieu d'embaucher tous les planqué du système qui se tape le train de vie de Kim Kardashian aux frais des gueux. Donc le peuple a commencé à râler, hein, quand ce week-end il a réalisé qu'Agnès Salle avait été prise parce que Macron avait promis la République exemplaire. Or, il y a eu Benalla, le barbouze low cost, là on a Salle repris de justice, donc c'est la République exemplaire mais du point de vue d'Al Capone. Hein, on en viendrait presque à regretter Hollande qui a passé 5 ans à bouffer des pépitos devant la télé, mais qui était trop bête pour être malhonnête. Et Françoise Nyssen a défendu la nomination d'Agnès Salle sans se dire une seule seconde que c'est à cause de trucs comme ça que les gens rejettent la classe politique. Alors qu'elle aurait dû lui dire à Salle, bébé, t'as fait 40 000 euros de frais de taxi, fais un fonds gessif et va bosser à Automoto afin de valoriser tes acquis. Alors pire, le Premier ministre, là, Édouard Philippe, ce type qui fait 2m07 et que pourtant on ne voit pas. Eh bien, c'est dit, Agnès Salle, la pauvre, elle a eu un job, mais pas très payé. Et donc, il l'a promu au grade d'administrateur général. Hein, le 3 août, bien sûr, quand tout le monde était déchiré au spritz avec du sable dans les fesses. Hein, les nominations, c'est comme le fait de faire pipi dans la nature, faut attendre qu'il y ait personne qui regarde. Donc, administrateur général, je vous explique, c'est un titre honorifique, hein, ça ne sert à rien. C'est comme de refourguer un Becherel au rappeur Jules. Hein, ça permet juste d'augmenter le salaire de la personne. La Salle va toucher 6500 euros par mois. Donc, je pense que derrière, on peut recruter Cahuzac et Redouane Faïd afin de le réinsérer. Hein, bref, Agnès Salle va pouvoir se payer des Uber. Ses pieds vont à jamais rester vierges et doux comme un cul de bébé. Une personne est sortie du chômage. Elle, bah écoutez, c'est un début.
Merci. Merci. Spectacle, Tanguy.
Et oui, on te retrouve Tanguy sur scène les 14 et 15 septembre au théâtre Le Bouffon Bleu, ça c'est à Angers, et ça aussi un peu plus tard à Lille au Spotlight les 21 et 22 septembre.
Absolument, merci.
Voilà
merci.
Qui est dit, c'est précis.
Ça a marqué, il a du Spotlight.
Jean-François Balmer, le CV de Dieu, la pièce de Jean-Louis Fournier,
c'est
avec
quand
et c'est à partir du 13 septembre à la Pépinière Théâtre.
Tu vois, pas vu du coup.
Vous traquez, Bénion. Vous traquez pour la première, la re-première parce que c'est la première à Paris.
21e.
Oui, c'est la 21e.
Ouais.
Non, c'est la première à Paris.
Mais c'est la première à Paris. Est-ce que vous avez une appréhension particulière encore?
Oui, moi j'ai toujours, de plus en plus, de plus en plus, et parce qu'on m'a dit que ça venait avec le talent, donc je répète.
Le trac, vous l'avez réellement?
Ah, j'ai un trac effrayant.
Et vous avez vos habitudes que l'on pourrait peut-être appeler superstition avant une pièce?
Non, je... j'ai toujours dit
votre loge. Vous l'avez aménagée, par exemple.
J'ai une loge.
Un prénom sur une porte.
Non, mais vous mettez pas une photo.
Moi, j'ai toujours dit que le seul jour où un acteur est heureux, c'est le dernier jour.
Soulagé.
C'est soulagé. Et le reste.
Non, mais ça, je vous crois pas.
Mais ben vous trompez.
Je vous crois pas parce que je pense que ça vous manquerait justement de ne pas jouer.
Pas sûr.
Non, mais après, c'est différent. Il y a le manque et puis il y a la crainte. C'est-à-dire que on prend du. Est-ce que vous prenez du plaisir? Vous avez la sensation que le plaisir pendant que vous jouez.
Ah oui, bien sûr. ça existe complètement. Ouais. Mais l'espèce de rendez-vous au quotidien qui fait que tout d'un coup, si la veille ça s'est bien passé, vous avez un moment un petit peu en suspension et puis après tout d'un coup, vous basculez en disant il faudra qu'on essaye d'être... Et puis si vous imitez ce que vous croyez imiter, ce qui a été la veille, et vous, c'est une mauvaise voie, évidemment. Mmh. Et donc il faudrait avoir... être dans un état qui fait que plus on a joué un rôle, plus c'est difficile, donc plus on a le trac, si on est cohérent.
C'est difficile de trouver.
C'est difficile
de
trouver la fraîcheur.
Et de ne pas répéter la même chose.
Et de ne pas répéter la même chose. Parce que si vous voulez.
On tombe dans la monotonie, quoi, en fait.
Oui, ouais. Parce que quand vous faites une tournée, les femmes ont acheté un ticket pour leur mari ou leur amant 6 mois ou avant, plus. Donc ils savent que. Et vous avez rendez-vous le 15 mai, le 27 juin avec eux. Et si vous voulez, ils savent que vous le jouez depuis 2 ans ou depuis 1 année. Et donc, si vous voulez, il faut essayer de leur faire croire que c'est la première fois que vous jouez pour eux. Et tout le monde sait que c'est faux. Et donc, si vous voulez...
Est-ce que ça, c'est pas le partenaire aussi qui est important, c'est-à-dire...
Il est capital.
Voilà.
Est-ce que c'est pas une pensée de comédien aussi? Est-ce que vraiment le public, quand il vous voit sur scène, il se dit, Fichtre, ça fait 200 fois qu'il joue ce rôle-là?
Non, ils ont rendez-vous, mais ils veulent pas, et ils ont raison. Ils méritent pas d'être déçus.
Ouais.
Donc, si vous voulez, il faut aller, plus vous jouez, plus vous essayez d'aller chercher loin et quitter le musée Grévin. Moi, je pense que souvent, le musée Grévin, ça correspond à ce qu'on voit au théâtre.
Faut qu'on aille à la première, quoi.
Le public n'a pas le droit d'être déçu, c'est pourtant ce qui va se passer maintenant. Voici Daniel Morin.
Quelle ordure! Ça s'est entendu.
Service!
Ah, pardon. Oui, on a
entendu. Non, non, monsieur Guy, non. La décrépitude n'est pas une fatalité. Sachez qu'il y a de l'espoir pour les vieilles choses. Pourtant, quelle désolation quand on constate un affaissement, une usure, d'inquiétants signes d'érosion. On sent le présent grignoter le passé, mettre des points d'interrogation sur son futur. Mais cela est-il une fatalité? Non. Bien sûr que non. Et pourquoi? Nagui, et pourquoi? Au lieu d'envoyer un petit texto. Eh bien, tout simplement parce que... depuis ce matin, tu peux jouer au loto du patrimoine, un jeu de grattage à 15 euros qui te permet exactement de gagner jusqu'à 1,5 million et qui, par la même occasion, aide à sauver le patrimoine français en péril. Oui, sur les 15 euros que tu vas payer, 1,5 sera reversé pour sauver nos chefs-d'œuvre en péril. Bon, tu me diras, mais ils vont passer où les 13,50 qui restent? À ça, je te répondrai, mais de quoi je me mêle? Tu crois que la Française des Jeux, elle en a quelque chose à faire du patrimoine? Non, bien sûr que non. Quel que soit le patrimoine, que ce soit le loto du patrimoine, le loto sportif, le millionnaire, le blackjack, l'euromilieu, le banco, la FDJ est là pour gagner du blé et c'est tout. Allez, tout le monde au secours du patrimoine, on achète tous un ticket loto patrimoine. C'est une bonne idée, ce loto dédié à une cause. Ça débarrasse l'État, c'est ludique et ça rapporte. On devrait faire ça pour plus de choses. Sachez qu'il y a de l'espoir pour les chômeurs. Pourtant... Quelle désillusion quand on constate une augmentation de la courbe des sans-emploi. On sort pour l'emploi prisonnier des vieux démons de la NPE et ça met des points de suspension sur le plein emploi. Mais cela est-il une fatalité? Non. Bien sûr que non. Et pourquoi? Eh bien parce que... Depuis ce matin, tu peux jouer au loto du chômeur, un jeu de grattage à 15 euros qui te permet de gagner jusqu'à 1,5 million et puis à la même occasion t'aide à trouver et à sauver l'emploi en France. Et oui, et sur les 15 que tu vas payer, 1,5 sera reversé pour aider un chômeur longue durée à trouver un job. Bon, tu me diras, ils sont passés où les 13,50 qui restent? À ça, je répondrai, mais au MEDEF, bien sûr! Tu crois que le MEDEF, il va demander aux entreprises d'employer des chômeurs comme ça, généreusement et sans contrepartie? Non, bien sûr que non. Les 13,50 restants seront reversés au syndicat patronal pour alimenter une caisse de bonus non imposable spécial grand patron. Allez, tout le monde au secours des sans-emploi. On achète tous un ticket loto du chômeur. En même temps, il y a des causes qui méritent plus que d'autres. Vous avez vu la grille de rentrée de France 2? C'est pas du harcèlement. C'est de la maltraitance. Pourtant, quelle désolation quand on constate un affaiblissement, une usure, d'inquiétants signes d'érosion. On sent le présent grignoter le passé, mettre des points d'interrogation sur son futur. Mais cela est-il une fatalité? Non.
Non.
Bien sûr que non. Et pourquoi? Eh bien parce que depuis ce matin, tu peux jouer au loto Michel Drucker, un jeu de grattage à 15 euros qui te permet de gagner jusqu'à 1,5 million et qui par la même occasion aide à sauver un animateur en ruine. Oui, le 15 euros que tu vas payer sur ces 15 euros, 1,50 sera versé à France Télé pour le nourrir et nettoyer le canapé rouge. Mais tu me diras, ils vont passer où les 13,50 qui restent? À ça, je répondrai, mais directement à Michel, bien sûr. Allez tout le monde au secours de Michel Drucker et du service public, on achète tous un ticket loto pour Michel Drucker. Voilà, voilà une vraie cause nationale, en tout cas. À demain.
Merci.
France Inter, la bande originale, avec Nagui.
À la Pépinière Théâtre, ça sera à partir du 13 septembre prochain, dans une semaine, un peu plus d'une semaine, une dizaine de jours, le CV de Dieu.
Pile dix, pas une dizaine.
C'est ça. Voilà.
Le CV de Dieu de Jean-Louis Fournier, mis en scène par Françoise Petit, avec Didier Bénureau et Jean-François Balmer, qui est notre invité. Le plaisir des textes et l'amour que vous portez à ce que vous jouez va mettre une pression supplémentaire, j'imagine, à tous les scénaristes ou réalisateurs qui vous envoient leur document pour espérer que vous acceptiez de jouer un rôle. Dans ces cas-là, vous dites toujours la vérité, ce que vous avez dit et expliqué tout à l'heure. Est-ce que vous changez avec le temps ?
À peu près.
Vous avez mis de l'eau dans votre vin ?
Je mets de l'eau dans mon eau, je bois de l'eau. Et
s'il y a des rôles que vous aimeriez porter, incarner, que ce soit au cinéma, au théâtre ou à la télévision ?
Non, je voudrais bien faire un grand rôle psychologique au cinéma. Il me manque quand même une grande trajectoire importante.
Et l'écriture, vous y avez pensé ?
Vous savez, Régis Debray dit qu'en France, une personne sur deux a écrit ou écrira un livre. Une personne sur 100 en a lu une fois dans sa vie. Donc, j'ai jamais pensé. Mon écriture est à peu près au niveau d'une carte postale que j'envoie souvent et puis avec un certain plaisir. Mais je sais pas si la suite de mes cartes postales. On m'a proposé 2-3 fois récemment d'écrire et j'avoue que j'ai pas dit non.
Ah.
J'ai pas dit non. J'avais déjà un type et une femme sont venus dans un cocktail et ils m'ont dit vous devriez écrire. Et puis j'ai dit.
C'est sûr, c'est pas les témoins de Jéhovah. Ils viennent souvent par deux et on compte.
Non mais là, pardon, on parle pas d'écrire vos mémoires. On parle d'écrire une histoire.
J'ai dit non, je veux pas faire ça parce que les acteurs m'emmerdent et les autres aussi. Le type a dit on a le titre, il y a plus qu'à l'écrire.
Ah,
j'ai trouvé que c'était joli.
Et donc vous écrivez ?
Ouais, j'ai refusé évidemment un contrat. Je veux écrire et puis
à votre rythme.
À mon rythme, et puis je vais réfléchir.
On vous retrouvera prochainement dans un téléfilm Meurtre à Omaha Beach sur France 3, aux côtés de Claire Chazal. Vous l'avez déjà tourné,
tourné, tout à fait.
Et vous êtes bien entendu avec Claire, c'est une...
Je l'ai croisée, j'ai trouvé.
Ah, vous n'avez pas joué avec, vous n'avez pas eu de scène.
Oui, on avait une petite scène. J'ai trouvé qu'elle était très agréable. C'était au bord de la mer, c'était très...
Donc vous êtes accueillant. Si quelqu'un n'est pas comédien spécialement et qu'il se met à jouer...
Moi, je suis complètement.
D'accord.
Moi, je suis... Je pense que c'est pas de la générosité. C'est simplement pour être plus efficace. Moi, j'ai des moultes anecdotes, des grands acteurs. J'avais tourné avec Trintignant ou Montand. Et c'est des gens qui vous mettent totalement à l'aise, tout de suite. Moi, Trintignant, la deuxième fois, après RAS, le deuxième film que j'ai fait, c'était avec lui, c'était une apparition. Et il m'a dit, je vous trouve que vous êtes un acteur exceptionnel. Moi, j'étais sûr qu'il m'avait vu. Je trouvais ça normal, évidemment. Mais je ne sais pas s'il m'avait vu. Et le fait est qu'il m'avait mis à l'aise. Et la petite scène qu'on avait, ben, grâce
et
à ça...
Et ça lui a indirectement servi à lui aussi.
Bien sûr. Il n'y a que des imbéciles qui sont agressifs et méchants avec des...
T'as compris, Nagui ?
L'enchaînement est tout trouvé. L'enchaînement est tout trouvé. Daniel Morin, encore lui. Des excuses
bien
à présenter.
Bien sûr, désolé déjà à l'avance pour les spectateurs qui avaient prévu d'aller voir Jean-François Balmer au théâtre. Il nous l'a avoué, il l'a confié ce matin. Il n'est jamais meilleur que face à des arbres. Désolé, les Havrais dont la ville, l'environnement, le folklore ont été décriés par l'infâme Tom Villa. Désolé pour Avignon dont le festival, le public, la population, les gens en tongs ont été méprisés par Jean-François Balmer. Pas de jaloux, les amis. Demain, on s'attaque à Marseille, Outreau et Dijon. Désolé pour Garcimore, enfin, paix à son âme, dont la mémoire, le talent, l'accent, la coupe de cheveux ont été moqués par Tom Villa, mais l'ensemble de la bande, on peut les rajouter. Vous verrez, quand vous serez morts, les gars, vous ferez moins les malins, vous aussi.
Merci mille fois, Jean-François Belmer, d'avoir accepté notre invitation. Merci.
Vous reviendrez
Avec grand plaisir.
Le 13 septembre, à la Pépinière Théâtre, avec Didier Bénureau pour le CV de Dieu. Demain, Chantal Lobby et Jean-Pierre Bacry seront nos invités.